Les par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités. Hélène Denis qui vous accompagne en ce premier jour du mois de novembre 2017. En manchette aujourd'hui, plus de 18 000 Québécois en attente de physiothérapie. Aider les aveugles à lire. Steve Charbonneau, un sportif et des sports hors du commun. Danser la langue des signes. États-Unis, à peine opérée, une fillette handicapée sans papier est arrêtée à l'hôpital. Et en entrevue, je reçois Pascale Roy, coordonnatrice à l'inscription et à l'aiguillage, dis-je bien, à l'INCA et utilisatrice de la bibliothèque de l'INCA qui vient nous parler d'un musée virtuel. Et aussi, une invitée qui s'appelle Marine Gaillard, que vous connaissez bien, qu'on recevait en début de semaine, coordonnatrice des programmes au CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, membre d'Altergo, qui vient nous parler cette fois du premier congrès en sport adapté de Montréal. Plus de 18 000 Québécois en attente de physiothérapie, c'est dans le devoir.com. Plus de 18 000 patients sont sur une liste d'attente pour voir un physiothérapeute au Québec. Et le temps d'attente pour se faire traiter est si long dans le réseau public que cela risque d'accroître le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques, constatent des chercheurs dans une récente étude. Certains de ces patients ont été dirigés vers un physiothérapeute par leur médecin de famille en raison de douleurs aiguës au dos, par exemple. D'autres se sont fait envoyer en réadaptation à la suite d'une opération. Dans 16 % des cas, ils attendent depuis plus d'un an. Les chercheurs sonnent l'alarme parce qu'à partir de 6 mois, l'attente pour ce type de soins risque d'avoir des conséquences graves sur la santé mentale de la personne et sur sa qualité de vie. Cette situation est particulièrement inquiétante pour les gens qui souffrent de maladies chroniques dont on sait qu'ils comptent pour la majorité des personnes sur liste d'attente. Peut-on lire dans une étude publiée cet automne dans un journal scientifique? Il est possible que des douleurs aiguës se transforment en maladies chroniques en raison des délais d'attente. Plus d'une personne sur cinq consulte au moins une fois par année pour des troubles musculo-squelettiques et dans la majorité des établissements publics, les demandes de physiothérapie sont en hausse depuis 3 ans. Aider les aveugles à lire, c'est dans le journal Métro.com. Distinguer les contrastes, c'est à peu près tout ce que pouvait faire Michael Benjor. Mais la vie de cet aveugle de naissance, résident de Dollard-des-Ormeaux, a changé depuis juin grâce à MyEye, une nouvelle technologie qui permet aux non-voyants de lire. La firme israélienne Orcam a développé la petite caméra attachée à des lunettes reliées à un petit ordinateur qui se porte à la taille. Avec des écouteurs, les utilisateurs peuvent ainsi entendre la machine dicter le texte désigné avec le doigt. Certaines photos peuvent aussi être programmées dans la banque de données pour faciliter l'identification. Lorsqu'il y a plein de monde autour de moi et que je ne sais pas où se trouve ma femme, l'appareil me dit qu'elle est là. Ça va aussi reconnaître les boîtes de céréales et d'autres produits à l'épicerie. Ça dit également l'heure et les couleurs. L'appareil fait partie de toi finalement, souligne-t-il. Pour l'homme de 40 ans qui travaille chez lui dans un studio d'enregistrement, les 4 500 $ que coûte l'appareil disponible au Canada depuis seulement l'an dernier en valent la peine. Ça te redonne une partie de ta vision dans un sens. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'aide. Ma première fois avec MyEye, j'ai eu l'impression d'avoir un super pouvoir supplémentaire. Juste le fait de pouvoir pointer quelque part et de lire, ça fait drôle. Ça donne une assurance qui est très valorisante, précise-t-il. Le MyEye est disponible partout dans le monde en plusieurs langues, dont le français et l'anglais. « Je m'entretiens maintenant avec Pascale Roy, coordonnatrice à l'inscription et à l'aiguillage à l'INCA, utilisatrice aussi de la bibliothèque de l'INCA, qui a travaillé 10 ans pour la bibliothèque de l'INCA. Alors, elle connaît bien l'INCA. Bonjour, Madame Roy.
Bonjour, Madame Denis.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Ça nous fait plaisir. Et puis, vous nous parlez d'un musée virtuel, d'une exposition virtuelle intitulée « Afin que tous puissent lire ». D'où est venue l'idée de créer cette exposition en ligne « Afin que tous puissent lire » ?
Bien, la raison en est que, en fait, l'INCA va célébrer ses 100 ans d'existence en mars 2018.
Ça s'en vient?
Oui, ça s'en vient bientôt, oui. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de la création de ce site-là.
D'accord. Et que propose l'exposition, en fait?
En fait, on retrace le contexte historique menant à la création d'INCA. La contribution des pionniers fondateurs d'INCA et leur parcours aussi. On en sait un petit peu plus sur leur cheminement personnel, pourquoi est-ce qu'ils ont contribué à la création de la fondation d'INCA. On va aussi retracer les services de bibliothèque d'INCA de la création du Canadian Free Library for the Blind, mm-hmm. qui est vraiment l'origine de tout jusqu'à aujourd'hui. On parle beaucoup aussi du contexte des événements marquants d'avant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre et après la Première Guerre mondiale. Et puis, on va aussi beaucoup, on va retracer en fait toute l'évolution des technologies d'accès à l'information pour les personnes vivant avec une perte de vision, allant des livres imprimés en relief jusqu'à aujourd'hui.
C'est vraiment un cours d'histoire.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, à travers des photos, des textes, des documents d'archives, des témoignages aussi, des différents intervenants là, qui ont eu une contribution importante au cours de l'histoire.
Et j'ai l'occasion de naviguer sur la page. C'est dynamique, c'est passionnant, même pour quelqu'un là, qui n'a pas de difficulté de vision.
Tout à fait, tout à fait.
Alors justement, comment on navigue une fois sur la page?
Ben, tout d'abord, on peut, en fait, lorsqu'on arrive à la page introductive, bon, on peut aussi taper dans le navigateur Internet afin que tous puissent lire.ca là, mm-hmm. pour accéder directement à la page. On a une page d'introduction et sur la page d'introduction, on a accès à différentes sections. Une section qui s'appelle « Explorer l'histoire ». On a aussi ce qu'on appelle la section galerie. C'est la section où il y a des photos de personnages, de différents formats de livres, des appareils de lecture dont on se servait aussi pour accéder à l'information. Et il y a aussi, évidemment, la section nos histoires.
Oui.
Donc, dans cette section-là, les gens ont la possibilité de lire des témoignages, d'écouter des extraits audio de personnes qui ont contribué là ou qui sont des utilisateurs de la bibliothèque.
Et les utilisateurs de la bibliothèque peuvent laisser des témoignages, ceux qui sont à l'écoute et qui ne l'ont pas fait ou qui ne sont pas au courant. Comment ça fonctionne?
En fait, c'est que dans cette section-là, il va y avoir un bouton qui s'appelle, attendez un tout petit peu, qui s'appelle « Partager une histoire mm-hmm. ». Et vous allez arriver sur une page dans laquelle on va vous demander votre nom, votre adresse courriel, le titre de l'article que vous voulez publier et tout simplement soumettre l'article. Que vous
D'accord.
L'histoire que vous voulez partager avec les autres utilisateurs,
oui.
Ceux qui consultent le site.
Et est-ce que cette exposition est accessible à tous?
Oui, l'exposition est accessible aux gens qui utilisent des technologies adaptées. Quand on parle, par exemple, des photos qui sont publiées sur le site, il y a des descriptifs aussi des photos qui apparaissent. C'est assez facile par les différents liens là, d'accéder aux différentes sections de l'exposition.
Et l'exposition, est-ce que au-delà du centenaire, après 2018, est-ce qu'elle sera toujours en ligne?
On espère. Surtout si le site est consulté et si les gens prennent la peine de laisser des histoires, je pense que ça va perdurer là, quelques temps après la fin des célébrations du 100e anniversaire de l'INCA.
Oui. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez recueilli plusieurs témoignages?
Il y en a quelques-uns quand même déjà qui sont publiés sur le site. Il y a des gens qui ont partagé plus que plus qu'un témoignage. En fait, ils ont on a des extraits sonores, par exemple, de personnes qui ont vécu, qui ont connu des fortes. Si, par exemple, il y a M. Jim Sanders qui a parlé du temps où il y avait des livres qui étaient disponibles sur disque. C'est tout à fait fascinant d'entendre ça. oui, tout à fait. Mais on invite les gens à laisser des histoires, évidemment.
Oui, ben j'espère qu'on vous entendra. Et Mme Roy, quelle est l'adresse du site si on veut visiter l'exposition Le Musée virtuel?
Alors donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une adresse, évidemment, un site là, avec une adresse en anglais qui est thatallmayread.ca.
thatallmayread.ca, oui.
/fr. Mm-hmm. Mais si vous tapez « afin que tous puissent lire.ca », dans le navigateur, dans la barre d'adresse, vous allez facilement accéder à l'exposition également.
Alors, je vous remercie beaucoup. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour et d'y retourner parce qu'on apprend plein de choses.
Plein de choses, tout à fait. Oui.
Pascal Roy de l'INCA, merci. Et puis, bonne chance avec votre exposition. Félicitations d'abord.
Merci à vous.
Au revoir. Dans la presse.ca, Steve Charbonneau, un sportif et des sports hors du commun. Il n'y a pas grand monde au Québec capable de transporter des adultes handicapés vers des aventures sportives extrêmes, mais Steve Charbonneau, lui, le fait pratiquement au quotidien, littéralement. Avec son 1,95 m et sa stature d'ancien joueur de football, il en fait bouger du monde. Autrefois joueur de ligne défensive pour les Alouettes et colosse sympathique, Steve Charbonneau est directeur de la Fondation Sport Adapté. Son travail, organiser des activités sportives pour des personnes qui n'y ont pas accès parce qu'elles ont des besoins spéciaux. Récemment, il a lancé un appareil qu'il a mis au point avec ses collègues et nombreux collaborateurs, le DAHU, D-A-H-U. Ce fauteuil roulant sportif hautement modifié permet de rouler dans les sentiers en montagne et de traverser les ruisseaux. De passer par-dessus les roches, les racines, bref, il rend possible ce sport de randonnée extrême autrefois interdit aux personnes à mobilité réduite. Pendant 2 ans, il a travaillé sur plusieurs prototypes avec son équipe. Et là, ça y est, il est content du résultat. Un rêve, le commercialiser à grande échelle et le faire fabriquer par des gens qui ont des handicaps et qui peuvent très bien travailler. « J'aimerais faire une entreprise d'économie sociale », dit-il. Quand il n'est pas en train de solliciter des fonds, car les dons sont les seules ressources de l'organisme qui ne reçoit aucune subvention gouvernementale, Steve est sur le terrain. Pour l'aider, il y a la petite équipe de la Fondation et 200 bénévoles. « On ne se limite pas à une seule discipline », dit-il. « On veut du nouveau, que ce soit le fun. » Les personnes à mobilité réduite adorent cette nouveauté. Ce renouvellement, ces efforts investis pour créer de nouvelles expériences qui leur sont ainsi accessibles. Dans l'hebdojournal.com, la chorégraphe de la troupe de danse K-Public s'est longtemps intéressée à la langue des signes. C'est lorsque le danseur Kay Clover a été sélectionné pour rejoindre la troupe que l'occasion d'utiliser la langue signée en danse s'est présentée. Kay Clover est malentendant. Le danseur a perdu l'ouïe à l'âge de 8 ans des suites d'une méningite. Un implant cochléaire lui a permis de retrouver l'audition 1 an plus tard. En dansant, c'est difficile parce que l'implant s'enlève souvent et il s'éteint parfois en raison de la sueur. C'est déjà arrivé en spectacle qu'il n'entendait tout simplement plus et qu'il enlevait son appareil. Quand ça arrive, il devient super à l'écoute du groupe. Il finit par avoir un rythme musculaire, une musique à lui. Quand ça se produit, on s'écoute et on dialogue avec nos corps. « On n'a pas besoin de mots », explique Roxane Duchesne-Roy, collaboratrice au sein de la troupe K-Public. La chorégraphe de K-Public a traduit la 9e symphonie de Beethoven en langue des signes québécoise. Ce morceau n'a pas été choisi au hasard. Beethoven avait déjà perdu l'ouïe lorsqu'il l'a composé. Sur cette symphonie retravaillée par Martin Tétrault pour lui apporter de nouvelles textures et un côté plus urbain, les danseurs s'élancent dans une chorégraphie entremêlant langage des signes, jeu de jambes et déplacements. Les danseurs ont appris la vraie langue des signes avant de monter le tout dans sa forme actuelle. Hélène Blackburn a joué avec le matériel pour l'adapter en danse. Tout le corps est investi dans la chorégraphie, mais on remarque clairement le langage signé. En coproduction avec le Cooper Guitry, l'œuvre se découvre, dis-je bien, toute génération confondue, repoussant les frontières du silence pour que la différence se taise et que le corps devienne langage. Les spectacles auront lieu le 2 novembre à la Maison de la culture de Trois-Rivières, 7 novembre au Théâtre de la ville de Longueuil et le 14 novembre au Centre culturel à Sherbrooke. Bonjour Marine Gaillard.
Bonjour.
Coordonnatrice des programmes au CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, membre d'Altergo. On s'est parlé lundi, Marine, de l'exposition Nature insaisissable dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont rendus à l'exposition?
Bien, l'exposition est vraiment ouverte tous les jours. Donc, tous les jours, il y a plein de gens qui s'y rendent, beaucoup de touristes.
Oui.
Ils viennent visiter aussi le lieu. Donc, c'est une belle vitrine.
Tant mieux. J'espère qu'ils prennent le temps de regarder ce que les 15 artistes ont fait avec tout leur cœur, inspirés par les parcs de Montréal. Alors, cette fois, Marine, vous me permettez que je vous prénomme Marine, que je vous appelle par votre prénom?
Oui.
Mais je vais continuer à vous voyer. Alors, cette fois, vous êtes de retour pour nous parler du premier congrès en sport adapté de Montréal, qu'on appelle aussi le Sésame ou le Sésame?
Oui, le Sésame.
Le Sésame.
Exactement. Un beau clin d'œil.
Oui, ça s'en vient donc le 11 novembre. Pourquoi un congrès en sport adapté à Montréal et qui l'organise?
En fait, donc c'est un projet qu'on a présenté qui est soutenu par l'OPHQ.
Mm-hmm. L'OPHQ, qui est l'Office des personnes handicapées du Québec. Oui.
Exactement. Le pourquoi, en fait, l'objectif était vraiment d'offrir un congrès de formation pour les professionnels sur le sport adapté. On s'aperçoit souvent que le sport adapté n'est pas connu de tous. Donc, il y a ceux qui sont déjà dans ce milieu-là, qui connaissent le sport adapté. Mais l'objectif était vraiment d'amener une vitrine puis une formation pour les kinésiologues, les ergothérapeutes, les physios ou peu importe, là, tous les professionnels qui peuvent travailler en contact avec une clientèle qui a des limitations fonctionnelles.
Mm-hmm. Et quel sera le programme de ce congrès? Ça dure une journée, ça commence le matin tôt?
Oui, exactement. C'est vraiment un congrès sur une journée, début le matin vers 8-9 heures.
Ouais. 8-9 heures?
Oui, pour l'accueil, exactement, okay. Vers 8 heures.
Oui. Ça se passe à Montréal?
Oui, exactement. Ça se passe au Centre de loisirs Monseigneur Pigeon, qui a la chance, en fait, qui a été tout rénové, donc qui est complètement accessible avec un beau grand gymnase et des salles.
Et c'est situé où, ce centre-là?
C'est dans le sud-ouest.
D'accord.
Oui.
Avez-vous l'adresse exacte?
Non, je ne l'ai pas.
Ah, de toute façon, on va faire des recherches, on va la trouver.
Oui, c'est ça, au 5550 rue Angers.
Bravo. Alors, on revient au programme du congrès.
Donc, c'est ça, il va y avoir plusieurs conférences qui vont être proposées. Donc, il va y avoir tout ce qui est une partie plus basée sur les enfants qui ont un retard de développement moteur. Une présentation sommaire de différents sports adaptés. Tous ne seront pas présentés, mais quand même une bonne partie.
Est-ce que vous les connaissez, ces sports qui seront à l'honneur?
Oui, va y avoir le basketball en fauteuil, le rugby en fauteuil, la boccia,
Le boccia?
Oui, exactement. Le paracyclisme, le tennis en fauteuil, le ski de fond aussi.
Mm-hmm.
Donc, il y a quand même une belle panoplie avec des sports assez variés.
Oui, 4 saisons.
Oui, exactement.
Et pouvez-vous, Marine, nous présenter quelques-uns de vos invités?
Oui, donc on a la chance d'avoir plusieurs professeurs, notamment de l'UQAM. On a Marie-Ève Blanchet qui va être là, donc qui va nous parler de tout ce qui est retard de développement moteur. Monsieur Balaz aussi, qui est chercheur à Sainte-Justine, plus pour tout ce qui est maladies musculo-squelettiques.
Mm-hmm.
On va avoir aussi des thérapeutes, donc avec le Centre Neuroconcept qui est là. Puis de l'Université McGill, on a aussi Valérie Grandmaison, qui est aussi une athlète paralympique qui travaille en recherche à l'Université McGill pour un projet pour les enfants. Mm-hmm. Donc, on a quand même un beau panel de conférenciers. Oui. Et on va avoir la chance d'avoir aussi un panel d'experts qui va discuter et interagir avec les personnes qui seront présentes sur le thème du sport adapté, le chemin qui a été parcouru, puis les enjeux pour l'avenir aussi.
Mm-hmm. Est-ce qu'il sera question des Paralympiques?
Oui, entre autres.
Oui.
Entre autres. Oui.
Et quels sont les enjeux du sport adapté au Québec?
Oh, il y en a beaucoup. Il y a des enjeux de financement, de visibilité, de connaissances, de relève. Selon moi, les enjeux sont très larges. Mm-hmm. Puis c'est un petit peu l'objectif de ce panel d'experts-là et des discussions qu'il va y avoir. C'est aussi de déterminer c'est quoi les enjeux majeurs pour le sport adapté selon les experts qui viennent en fait de différents milieux.
D'accord. Et ce congrès-là, il faut payer là, parce que il y a plein de professionnels qui y sont et il mm-hmm. y a un lunch aussi santé compris dans le prix.
Oui, exactement. En fait, donc c'est un congrès de formation qui coûte 40$ tout compris, donc avec le guide de formation, toutes les conférences
et
le lunch.
Ouais.
Sur Internet, c'est des inscriptions par Eventbrite ou sur le site du SIVA, donc siva.qc.ca. Mm-hmm. On peut s'inscrire directement. Puis, c'est un congrès qui est reconnu par Sport Québec, qui donne des crédits de formation continue pour les coachs, et par la Fédération des kinésiologues du Québec, donc qui aussi donne des crédits de formation continue.
Très bien. Alors, le premier congrès en sport adapté de Montréal, ça se tient le 11 novembre au Centre des loisirs Monseigneur Pigeon, dans le sud-ouest de Montréal. Et vous nous rappelez l'adresse, maintenant que vous avez fait une petite recherche express?
Oui. 5550 rue Angers. C'est ça, on va attendre avec impatience. C'est surtout que les congressistes auront la chance aussi de pratiquer. Il y a une partie pratique de sport adapté en après-midi. Donc, on a essayé que ce soit très interactif.
Bon, alors, je vous souhaite un beau congrès. Marine Gaillard, coordonnatrice des programmes au CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, membre d'Altergo. Merci, à la prochaine.
Merci.
États-Unis, à peine opérée, une fillette handicapée sans papier est arrêtée à l'hôpital. C'est sur 20minutes.fr. La politique d'expulsion des « dreamers », entre guillemets, poussée à l'extrême. Des agents des services américains de l'immigration ont en effet suivi une fillette de 10 ans sans papier souffrant d'infirmités motrices cérébrales jusqu'à un hôpital pour l'arrêter peu après son opération afin de l'expulser, ont dénoncé ce lundi ses défenseurs. Dans une lettre adressée aux services gouvernementaux responsables des migrants mineurs, la puissante Union américaine pour les libertés civiles, ACLU, exige que Rosa Maria Hernandez soit rendue à ses parents qui vivent à Laredo, ville du Texas proche de la frontière avec le Mexique. Si la fillette n'est pas libérée d'ici mardi après-midi, l'ACLU entamera une action judiciaire immédiate, poursuit l'organisation. Souffrant d'infirmités motrices cérébrales, une pathologie liée au développement du cerveau qui affecte les mouvements et le contrôle des muscles, Rosa Maria Hernandez avait 3 mois lorsque sa mère l'a fait entrer clandestinement aux États-Unis pour qu'elle y reçoive de meilleurs soins. Elles étaient alors passées de Nuevo Laredo au Mexique à Laredo, deux villes situées de part et d'autre de la frontière. Accompagnée d'un adulte citoyen américain, la fillette se rendait la semaine dernière en ambulance vers un hôpital d'une autre ville du Texas pour y subir une opération lorsque des agents des services d'immigration les ont arrêtés à un point de contrôle. Sur frappemap.info, cette pétition vise à attirer positivement l'attention des décideurs sur les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, conditions de vie des personnes handicapées, une pétition lancée par une ONG ivoirienne. Selon le directeur exécutif de l'ONG Espoir Handicap, M. Deroux, des personnes vivant avec un handicap moteur, visuel, auditif ou mental sont défavorisées, marginalisées et le plus souvent exclues de la communauté. Les enfants en particulier sont confrontés à de nombreux obstacles physiques, culturels et même politiques. La discrimination, l'abus et la violence, parfois intentionnelle, sont le lot de leur quotidien à cause des idées fausses liées aux causes du handicap enracinées dans les croyances et les traditions culturelles. Ils sont privés de fait des services de base tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'information et à une formation débouchant sur un emploi décent. Face à ces difficultés que rencontrent ces personnes, l'ONG Espoir Handicap, qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, a lancé lundi 30 octobre une pétition à signer sur les réseaux sociaux. Cette pétition vise à inviter l'opinion nationale et internationale à se joindre à l'ONG pour attirer positivement l'attention des décideurs sur les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. L'initiative fait suite à un projet d'information et de plaidoyer pour promouvoir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Cette participation au projet a abouti à un plaidoyer sur l'accessibilité des handicapés aux véhicules de transport en commun, aux édifices, aux infrastructures économiques, aux informations, aux soins médicaux, à l'assistance sociale et au financement, et ceci à travers 8 histoires d'intérêt humain illustrées dans des films. La boîte de production télévisuelle Most Media est présentement à la recherche de participants non-voyants ou malvoyants pour un documentaire qui traitera du thème de la beauté. Ce documentaire, qui sera diffusé sur les ondes d'Ami Télé, veut donner la parole à des personnes non-voyantes afin qu'elles nous expliquent leur rapport à la beauté sous toutes ses formes. À travers ces témoignages, nous voulons présenter au public une vision différente du monde telle que perçue par les voyants. Le tournage devrait avoir lieu au printemps prochain. Si vous êtes intéressé à participer ou à avoir plus d'informations, veuillez contacter Claudie Aymon, recherchiste chez Most Media à l'adresse suivante claudie.aymon, sans accent, à commercial@mostmedia.ca. Grand merci de la part de Claudie Aymon. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été là. Merci à mes invités Pascal Roy de l'INSCA, dis-je bien, et aussi Marine Gaillard de SIVA. Merci aussi à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'était l'hyperactualité du 1er novembre 2017. J'espère vous retrouver demain.